Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Nous parlerons ce soir de genre et sécurité. Vous constaterez l'équilibre autour de ce plateau. Deux dames, deux messieurs pour parler du rôle des femmes dans le processus de paix et réconciliation au Mali. Et le thème de ce grand dialogue, c'est sécurité et genre au Mali. Quels défis et opportunités de paix? Et nos invités sont Dr Mariam Maïga de la Coalition nationale de la société civile pour la paix et la lutte contre la prolifération des armes légères. Aminata Diallo, facilitatrice de la CONACIPAL à Gao, et Moussa Guindo, expert en genre. Je suis Mouhamadou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs, vous également qui nous suivez sur Facebook, bonsoir à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Le rôle des femmes pour la résolution des conflits est indispensable selon plusieurs observateurs et le constat est remarqué sur le terrain quand on demande à un bon nombre de Maliens aujourd'hui. Alors Moussa Guindo, quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la participation et l'implication des femmes dans le processus de paix au Mali?
Merci et bonsoir aux téléspectateurs et puis, à vos auditeurs. Je pense que la question elle est claire. On ne peut pas faire la paix sans les femmes. On parle du genre. Le genre, c'est quoi? C'est les femmes et les hommes, en plus des handicapés. Mais la réalité, pour aller vers la paix, il faut éduquer les femmes. Il faut les former dans leur domaine, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de textes qui sont élaborés dans ce sens-là. Et la réalité aussi, c'est de sensibiliser, de cadrer les femmes. Parce qu'aujourd'hui, le Mali traverse une crise qui perdure. Et aujourd'hui, les moyens qui sont disponibles à le faire aujourd'hui, c'est à travers les femmes. Et pour les outiller, il faut les mettre dans les instances de prise de décision. Et à travers la loi 052, je pense que ça permet aux femmes d'être dans les instances de décision. Et ça les facilitera aussi d'avoir leur mot à dire. Et en plus de ça aussi, il faut les mettre dans les positions économiques. Ça veut dire quoi? D'agir au moment opportun. C'est pour vous dire qu'il faut les autonomiser et les aider à aller vers ça. Et ensuite, le troisième point, c'est juste pour les permettre de réfléchir et de se retrouver dans les organisations, des ONG, des associations au moins, pour dire leur mot par rapport à la situation. Parce qu'en cas de crise, les victimes, c'est des femmes. Parce que quand on voit des femmes et des hommes dans des situations de crise, des victimes, c'est au niveau de la femme. Parce que des systèmes de crise à travers des viols, des agressions, c'est des femmes qui subissent avec des enfants. Et en voyant tout cela, c'est des moyens importants pour qu'au moins qu'on puisse aller vers une paix durable et en les protégeant. Et voilà ce que j'ai à dire en introduction par rapport à votre question.
Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'implication et la participation des femmes dans la résolution des conflits est à hauteur de souhait?
Bon, on ne peut pas le dire, mais pour le moment, tout ce qui est sur le terrain par rapport au renforcement des capacités, par rapport à la sensibilisation, on peut dire que nous avons atteint un peu à 60% de nos objectifs. Parce qu'aujourd'hui, les femmes font partir de plus de 51% de la population. Et il est bon de compter avec cette couche-là. Et en comptant sur eux, il faut les renforcer, comme je l'ai dit au tout début. Et psychologiquement, dans la crise, c'est des femmes qui sont au devant de la scène. Mais aujourd'hui, si on veut aller vers la paix, si on veut vers la tranquillité, si on veut aller vers la sensibilisation et la cohésion sociale, il est bon de s'appuyer sur cette couche-là et en créant des conditions pour au moins trouver l'objectif visé et qui est la paix. Parce que personne, nous sommes tous victimes de cette crise-là. Mais aujourd'hui, je pense que le genre est au cœur de cette crise et la solution passe par là.
Et je rappelle à ceux qui nous suivent que ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et CIPRI, Stockholm International Peace Research Institute. Alors, docteur Mariam Maïga, est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfaite de l'implication et de la participation des femmes dans le processus de paix au Mali?
Merci. Je remercie d'abord Radio Tamani pour cette initiative qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de CIPRI et de CONACIPAL. Donc, CONACIPAL et CIPRI ont entrepris un programme construction d'une paix durable au Mali, contribution de la société civile aux politiques de sécurité. C'est dans ce cadre-là que nous avons entamé l'implication de tous les acteurs de la société civile au niveau de ce processus de consolidation de la paix que nous avons entamé il y a 3 ans. Kona Sipal a eu un premier contrat avec CIPRI de 2006 à 2013 et 2013, maintenant 2016, et de 2016 à 2019. Donc, ce contrat a contribué à identifier les perceptions des populations, particulièrement des femmes et des femmes, des communautés, et par rapport aux questions de paix et de sécurité. Et dans ce cadre-là, on a élaboré beaucoup d'activités de recherche que nous avons publiées. Et cette publication a abouti à la production du livre blanc, à la publication du livre blanc de la société civile pour la paix et la sécurité. Maintenant, le processus d'implication des femmes. Actuellement, c'est un processus qui n'est pas à hauteur de souhait. Pourquoi? Parce que tout simplement, depuis la problématique de la participation des femmes dans la consolidation de la paix a commencé à préoccuper les gens depuis la Première Guerre mondiale. Donc, avec ce que les femmes ont subi, il y a eu une prise de conscience des différents acteurs sur la nécessité d'impliquer les femmes dans la recherche de solutions. Parce qu'elles ont joué un rôle important, elles ont entrepris des rôles d'action humanitaire pour soutenir les blessés et pour faire beaucoup de choses auprès des parties qui étaient en conflit. Donc, avec l'évolution, les Nations Unies ont pris conscience, en tout cas, de la nécessité d'impliquer les femmes désormais dans le processus de paix. Il y a eu beaucoup de préparation. Avec cette prise de conscience, les femmes se sont préparées elles-mêmes. Et il y a eu la Convention des Nations Unies qui a permis, en tout cas, de préparer cela pour que les femmes puissent être impliquées. Donc, en 2000, il y a eu la résolution 1325 des Nations Unies qui donne la légitimité aux femmes de participer au processus, à la prévention des conflits, à la gestion des conflits et à beaucoup à la consolidation de la paix. Cette résolution 1325, qui a pour objectif de renforcer l'implication des femmes, a plusieurs volets, 4 volets, 4 piliers. Le pilier de la prévention, le pilier de la participation, le pilier de la coordination des différentes activités et le pilier de les actions, le relèvement. C'est des aspects très importants. Donc, les femmes participent à tous ces niveaux et mettre l'accent, on a dit la participation des femmes, c'est important. Comme Guindo a lui dit, il faut impliquer les femmes dans les mécanismes de prise de décision. Parce qu'on se rend compte que quand il y a des décisions à prendre, c'est sur les hommes qui décident. Les femmes, même si elles sont consultées, le plus souvent, leurs décisions ne sont pas prises en charge. Et parfois, le dialogue est ouvert avec leur mari à l'intérieur, dans les maisons, pour dire, voilà, quelle est ta perception de tel ou tel problème. L'homme pose la question à la femme. Et le plus souvent, les hommes ont des décisions, des initiatives importantes sur la base des échanges avec leurs femmes à l'intérieur.
Donc, quand vous pensez que le processus n'est pas à hauteur de souhait, c'est par rapport à la prise de décision.
Oui, non seulement à la prise de décision, mais à tous les niveaux. Parce que vous voyez, si on prend le cas spécifique du Mali, il y a une crise aiguë au Mali. Depuis la rébellion de 90, les femmes participent au processus de recherche de la paix au Mali. OK? Mais les femmes ne sont pas impliquées à hauteur de souhait. Elles ne sont pas consultées. Et rien. Donc, après cette première rébellion, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la rébellion de 2006 et il y a eu aussi la rébellion de 2013, 2012. Donc, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés. Il y a eu jusqu'à ce qu'il y a eu les négociations pour l'accord d'Alger. Les négociations pour l'accord d'Alger sur 200 participants. Il y avait, je pense, un nombre inférieur, moins de 18 ou 28 femmes qui étaient là au nom de la société civile. Mais elles n'ont même pas participé. Il y a eu des réunions de concertation, de prise de contact, mais dans les réunions de prise de décision, les femmes n'ont pas participé. Deuxième élément, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger dit qu'il faut l'implication des femmes et des jeunes. Mais ce n'est pas le cas. Si tu prends la commission de suivi, le comité de suivi de l'accord, c'est un mécanisme de prise de décision. Il n'y a aucune femme là-dedans. Aucune femme. Au niveau des structures sous-achantes, il n'y a pas de femmes, sauf du côté du gouvernement, les trois partis n'ont pas désigné des femmes. Sauf du côté du gouvernement, on a senti dans les sous-commissions, l'État s'est fait représenter. Il y a des femmes qui sont membres des structures gouvernementales qui ont été désignées. Donc ça pose un réel problème. Les organisations de la société civile qui œuvrent pour les questions de paix et de sécurité ne sont même pas associées, ne sont même pas considérées. Mais compte tenu de leur conscience et de leur engagement, ces organisations de femmes travaillent, continuent à œuvrer pour la paix.
D'accord. Alors, Aminata Diallo, est-ce qu'à Gao, par exemple, les femmes sont frustrées par cette situation qui est la non-satisfaction de par rapport à leur implication dans le processus de paix?
Merci Touré. Je remercie Tamani pour cette initiative. Je peux dire que, comme vous l'avez dit au début, il y a vraiment une représentation de femmes. C'est 50-50, on le voit ici, même s'il nous a été donné 30%. J'en suis heureuse. Je peux dire qu'à Gao, c'est vraiment un honneur pour moi d'être sur ce plateau pour lever au plus haut, sinon la voix de toutes les femmes, mais surtout la voix des femmes de Gao. Je peux dire qu'à Gao, les femmes ne sont pas toutes contentes. La majeure partie ne sont pas contentes. Parce que si on voit au niveau de Gao, il y a la plupart des femmes qui sont là-bas sont dans les niveaux ruraux. Et elles qui sont dans les nouveaux rurales, la plupart des fois, leur point de vue n'est pas pris en compte. Comme l'a dit Dr Maïga, au moment où le fait qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'est pas satisfait de cette participation, c'est pourquoi? Parce que les hommes nous concertent à l'intérieur, mais notre point de vue ne sort pas directement pour dire que c'est la femme qui a donné tel point. C'est-à-dire, il y a une participation des femmes, ça c'est exact. Il faut comprendre que les femmes participent à tous les niveaux, mais ce n'est pas ressorti. Ce cas n'est pas ressorti. Lorsque, par exemple, un conjoint demande à son conjointe quel est ton point de vue par rapport à telle situation et que la femme donne ce point de vue, l'homme, bon, je ne veux pas dire que c'est pas égaux, mais l'homme va donner ce point de vue en tant que son propre point de vue, alors que certes, le point de vue est venu de l'homme, de la femme plutôt. Donc, je peux dire que cette participation des femmes, c'est vraiment effective, hein, mais ça ne ressort pas. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que nos points de vue ressortent. Nous pouvons les faire ressortir, mais nous pouvons aussi nous faire, représenter par d'autres personnes, mais que ce point de vue soit montré sur le plan national qu'international, que ça a été donné par les femmes. Sinon, on peut très bien se faire représenter nous-mêmes. On peut sortir, certes, dans les prises de décision, dans les institutions, les femmes parlent, mais je peux dire que jusqu'à présent, il y a une certaine complexité des femmes de pouvoir prendre la parole devant les hommes. Si nous voyons dans le cadre traditionnel, il est dit, dans certaines localités, on dit les boulons. Les blonds, il y a les femmes, certes, elles sont là, elles sont assises, mais derrière les hommes, elles n'ont pas droit à la parole. Il y a toujours cette marginalisation qui empêche certaines femmes de pouvoir prendre la parole devant des hommes. Elles se disent, non, je n'ai pas droit à la parole. Seul l'homme a droit à la parole. Donc, tout ce que l'homme aura dit, c'est vrai. Donc, je me tue Donc, je laisse les hommes parler. Donc, il y a toujours cette complexité des femmes de pouvoir prendre la parole. Et c'est ça qu'il faudrait tuer. Il y a toujours des campagnes qui ont été menées, surtout au niveau des GAO. Il y a des associations féminines qui ont été créées pour pouvoir dire aux femmes, vous avez droit à la parole. Votre devoir, c'est certes d'être derrière l'homme, mais vous pouvez vous faire représenter en donnant vos points de vue sur telle situation. Comme l'a dit Monsieur Guindo, les femmes sont les premières victimes. Elles sont les premières victimes de tout conflit. Après elles, ce sont les jeunes. Mais étant ces jeunes, ce sont nos fils, ce sont nos frères, ce sont nos beaux-frères, ce sont nos cousins. Donc tant que ces maris aussi, lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a nos maris, nos frères, nos fils sur le champ de bataille, nous sommes les premiers à être impactés. Parce que c'est nous qui perdons nos maris, c'est nous qui perdons nos fils, c'est nous qui perdons nos cousins. Donc nous sommes les premières victimes. Et je crois que pour mettre fin un peu à cette insécurité, il faudrait que le point de vue des femmes ressorte. Et il faudrait qu'on aille vers ces femmes. Il ne faudrait pas certaines personnes s'arrêtent et dire que je vais demander telle femme à côté. Une seule femme ne peut pas parler au nom de toutes les femmes.
Et justement, et ces femmes leaders qu'on a l'habitude de voir, est-ce que ces femmes leaders elles-mêmes aussi représentent réellement l'opinion des femmes rurales, comme vous l'avez souligné?
La plupart des fois, oui. Parce qu'à Gao, nous avons des associations féminines qui ont été créées. Je vais donner l'exemple de la CAFO. La CAFO regroupe plusieurs associations féminines. Mais au-delà de CAFO, il y a aussi des associations féminines qui sont créées dans les villages. Dans les localités, ils sont représentés par les femmes. Par exemple, dans le projet de Conacipal avec Cypri, nous, les facilitateurs, nous sommes deux facilitateurs dans la région de Gao, nous avons des GSPS, qu'on appelle le groupe de suivi de paix et de sécurité. Dans ce groupe, il y a toujours une femme, un jeune et un leader communautaire. Et la femme qui représente les femmes a dans sa localité un groupe de femmes dans lesquelles elle représente, qu'elle représente plutôt. C'est peut-être à l'intérieur d'une association ou bien d'un groupement féminin. Nous savons, nous avons beaucoup de groupements féminins avec les tontines et autres qui finissent par être des associations. Donc, elle représente toutes ces femmes. Surtout lorsque j'avais exposé le problème des femmes rurales, les femmes rurales, la plupart des fois, on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'elles sont dans leur localité. La plupart ont des activités génératrices de revenus dans les champs, avec les jardins, les piscicultures. Donc elles-mêmes, elles se disent « Non, je n'ai pas de point de vue à donner sur telle situation parce que je suis éloignée. Donc même si je parle, est-ce que quelqu'un va m'écouter ? Et où aller parler pour qu'on m'écoute ?» Tout ça, il y a certaines difficultés. Mais il y a certaines femmes leaders que je vais pointer du doigt d'une manière. Il y a certaines femmes leaders qui ne représentent pas tellement ces femmes, ne donnent pas assez de voix, de préoccupations de ces femmes qu'elles représentent. Donc ça, ce sont certaines difficultés qui sont dans les associations. Mais jusqu'à présent, je pense que les femmes ne sont pas assez impliquées, surtout les femmes rurales qu'il faut voir.
D'accord. Alors, Moussa Guindo, est-ce que les femmes, leur rôle dans le dialogue entre la société civile, la population et les forces de défense et de sécurité est suffisamment pris en compte?
Oui, bon, effectivement, c'est pris en compte. Parce que moi, c'est ça que j'ai dit au tout début, les femmes sont associées. Hein. Il faut qu'on quitte dans le cadre de rivalité entre hommes et femmes. Parce qu'il y a des conditions déjà pour permettre aux femmes d'agir, de s'exprimer. Et à travers ça, c'est à eux maintenant de s'organiser. Parce qu'aujourd'hui, des forums, des colloques qui se passent à Bamako, on voit des femmes partout, à tous les niveaux. Maintenant, c'est à eux maintenant de s'outiller, de parler au nom des femmes. Et en plus de ça, dire réellement, socialement, qu'est-ce qui ne va pas. La réalité entre les forces de sécurité, aujourd'hui au niveau des forces de sécurité, des femmes sont représentées. Et tout le débat qui se mène autour de ça, il y a une majorité des femmes qui agissent au nom des femmes à ce niveau. Et au niveau de la société civile, c'est la même chose. Mais en réalité, il faut coordonner les mouvements d'ensemble pour au moins trouver une base normale à ce niveau pour que les femmes puissent agir. Mais la réalité, à ce niveau aussi, il y a une question de disparité. Parce qu'aujourd'hui, avec les ONG et les associations, chacun évolue dans son domaine. En plus, il faut les retrouver pour qu'ils agissent au nom des femmes. Ça pose d'énormes problèmes. Mais ce qu'il y a à dire au niveau de l'État, il y a beaucoup de mécanismes qui est déjà en place pour permettre aux femmes d'agir dans le sens de la paix. Et ensuite, par rapport au texte, je pense que je l'ai déjà dit, et madame, le docteur a suivi à ce niveau-là, il faut les sensibiliser à être au rendez-vous. Ça veut dire quoi? S'il y a des élections, s'il y a des représentativités, dire que bon, les femmes vont rester au champ, c'est vrai, c'est leur rôle. Mais souvent, il faut agir. Et les hommes sont disposés à faire impliquer des femmes pour trouver une solution. Parce que des femmes, les hommes ne peuvent plus agir aujourd'hui, là où on est, dans la modernité, dans la gestion même de l'État. Il faut tous aller ensemble. Et c'est ça. Parce qu'au niveau de la sécurité, je pense que c'est déjà très clair. Comme elle a si bien, elle a touché à la 13-25, il y a les partenaires aussi qui nous appuient dans ce sens. Il y a des conventions dans ce sens, au moins, pour au moins les hommes puissent sortir. Et dans les groupes de pression, par rapport à l'accord d'Alger, par rapport à l'application des textes, je pense que les femmes sont à ce niveau partout. Et la réalité aujourd'hui, moi je reviens là-dessus, il faut sensibiliser, il faut renforcer la capacité des femmes pour que moi je puisse agir dans ce sens-là.
D'accord. Vous l'avez tous dit, aujourd'hui les femmes au premier niveau sont écoutées par sont sollicitées, consultées par leurs époux d'abord, pour demander leur opinion, savoir quelle démarche entreprendre. Alors aujourd'hui, comment exploiter cette influence des femmes dans le processus de paix, docteur Maïga?
Oui, moi, je pense que ça c'est un aspect très important. Moi, je pense que par rapport à cette situation, pour influencer l'implication des femmes, il faut qu'on amène les femmes elles-mêmes à être fortes, à être outillées. Il faut les sensibiliser, il faut les former en matière de leadership. Il faut que les femmes comprennent les défis et les enjeux des différentes questions de sécurité. Parce que le plus souvent, la question de sécurité, c'est perçu comme être entre les mains des forces armées et de sécurité. Maintenant, avec l'évolution de la situation sécuritaire, on se rend compte que les forces armées de sécurité même sont dépassées. Il faut que la communauté s'implique. Et les femmes constituent 50 à 51% de la population. Elles doivent s'impliquer. Elles doivent comprendre. Donc elles ont besoin d'être formées, d'être sensibilisées, d'être mobilisées, de renforcer leur capacité en matière de leadership, de négociation, de plaidoyer, pour leur permettre vraiment de travailler, de dialoguer. Elles-mêmes, entre elles, elles doivent dialoguer entre elles sur les questions de paix et de sécurité. Parce que le plus souvent, on dit, on trouve que les femmes ne s'entendent pas. Bon, alors que la femme, elle est le berceau de l'humanité. Elle gère la paix au niveau de sa famille. Elle gère la paix, les questions de paix et de sécurité au niveau de sa communauté. Et elle joue un rôle important. Et donc, elle doit comprendre. Si elle comprend les enjeux et les défis, elle peut jouer un rôle important dans la réconciliation, dans la consolidation de la paix, dans la stabilité au niveau de la famille, au niveau de la communauté. Donc ça, c'est des aspects sur lesquels il faut. Mais en plus de cela, elles doivent participer aux actions de médiation. Depuis la première rébellion, le mouvement des femmes, qui est une des premières organisations de femmes à s'impliquer dans le processus de la rébellion, a joué un rôle important et pour rapprocher les acteurs étatiques, les groupes armés. Tu vois, avec la rébellion de 92, il n'y avait pas d'avion. C'est l'armée, l'avion de l'armée seulement qui va à Gao. Les femmes se mobilisent quand elles ont compris les défis et les enjeux. Elles se mobilisent. Elles vont à l'armée de l'air chercher les avions et rentrer dans l'avion pour aller à Gao, à Kidal ou à Tombouctou pour prôner la paix, rencontrer les groupes armés, rencontrer les femmes, les épouses, les proches des groupes armés, et échanger avec les autres composantes de la société, de la communauté, pour pouvoir vraiment apaiser les tensions. Et les femmes ont joué un rôle très important pour aboutir à la signature du pacte national. Elles ont joué un rôle important. Elles ont fait toutes les régions du Mali pour apaiser, pour sensibiliser, entreprendre des actions d'éducation, de sensibilisation.
Aminata Diallo l'a dit tout de suite, certaines femmes, même quand on leur donne la parole, elles ne veulent pas s'exprimer, en tout cas quand il y a une présence d'hommes. Alors, est-ce que les époux ne seraient pas les acteurs clés sur lesquels il faut se baser pour pouvoir sensibiliser, former ces femmes-là?
Je vais vous dire, on était à Tombouctou, dans certaines régions. Quand on a commencé à aller travailler avec les femmes, et les hommes, ils ont dit que vraiment, ce dialogue-là que vous avez initié, c'est un dialogue important. Parce qu'il nous arrive, avec nos femmes, on ne cause que des questions de gestion économique de la famille. Maintenant, on est en train d'échanger avec nos femmes sur des questions de paix et de sécurité. Et ça, c'est très important. Et ça leur a permis de dialoguer. Parce que quand la femme ne comprend pas un certain nombre d'aspects sur les questions de paix et de sécurité, quand elle participe aux réunions, elle demande à son mari, « Ah, ça, voilà ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu en penses ? Et comment tu peux m'orienter ?» Il y a eu beaucoup de femmes comme ça. Donc, qui ont commencé à dialoguer avec leur époux. Et les maris étaient contents parce que ça a permis de créer un dialogue entre les femmes et leurs maris. Premier élément. Deuxième élément également, généralement, comme elle l'a dit, les femmes ne sortent pas. Mais on a commencé à mobiliser les femmes, les sortir de leur... On va les voir dans les familles pour des dialogues, des entretiens. Et on les fait sortir pour qu'elles viennent, qu'on se retrouve quelque part, dans toutes les régions, à Gao, à Kidal, à Tombouctou, pour développer une stratégie de leur implication dans la prévention et la gestion des conflits.
D'accord. Dans ce cas, où est-ce qu'il y a aujourd'hui réellement le blocage? Est-ce que c'est les bonnes mesures qui ne sont pas prises au niveau des autorités? Est-ce que c'est les hommes qui ne veulent pas que les femmes s'impliquent davantage? Ou est-ce que c'est les femmes elles-mêmes qui n'ont pas les capacités nécessaires pour pouvoir jouer ce rôle?
Je peux dire que tous ces trois aspects rentrent en compte. Parce que dès le départ, en famille, on s'est dit que la femme généralement a été, comment dire, la femme est déjà vue comme, je ne sais pas comment dire.
Au niveau de l'éducation, elles ont été formées, modélées.
Non, la femme, elle est vue comme, sa fonction reproductive est au-delà de tout. On la voit généralement comme une femme qui doit rester au foyer, en famille. Elle doit enfanter, prendre soin des enfants, prendre soin du mari, de la famille, de la belle-famille et tout ça. Déjà, l'aspect qui est la belle-famille, certaines belles-familles, la plupart, je peux dire, n'acceptent pas que leur belle-fille sorte de la famille pour aller dire qu'elle va s'exprimer. L'aspect dont j'avais posé par rapport à la complexité de la femme de s'exposer. Déjà, c'est un problème psychologique. Lorsque vous dites à la femme, tu n'as pas droit à la parole et tu ne peux pas dire... Qu'est-ce que tu vas aller dire? Quels sont les points de vue ou les aspects que tu peux aller sortir, faire ressortir pour qu'on puisse te prendre en compte? Déjà que ça rentre en tête, l'aspect psychologique bloque complètement. Déjà, même si on réunit les femmes autour d'un problème qu'il faut résoudre, entre elles seulement, pour un début, pour les faire parler, c'est difficile. Comme l'a dit Dr Mariam, c'est difficile. Mais dès que le blocage... s'ouvre, je peux te dire que les femmes peuvent te proposer des idées incroyables que les hommes, eux, n'auraient pas pensé. Parce qu'elles sont déjà, eux, les femmes sont les premières actrices de tout processus. Elles sont déjà les mères de famille, c'est elles qui sont à la maison, elles partent au marché, elles partent dans d'autres activités, elles peuvent rencontrer beaucoup de choses dans la circulation qu'elles peuvent analyser d'elles-mêmes. Mais déjà, cet aspect psychologique qui dit que non, tu n'as pas droit à la parole, ce que tu vois, garde ça en toi, ne parle pas, ne dis rien. Donc déjà, ça bloque. Et au niveau mari, il y a rarement des maris qui poussent leurs femmes à aller vers ce genre de processus.
Est-ce un refus, de la jalousie, c'est dû à quoi?
Il faudrait poser la question aux hommes.
En réalité, la femme se caractérise à travers le fait. Hein. Ça veut dire quoi? La femme, c'est la femme, elle a des besoins. Ensuite, toutes les conditions se réunissent aujourd'hui à travers le niveau du gouvernement pour inciter des femmes à sortir et à dire leurs mots. Mais la réalité, il faut qu'on quitte le cadre là. Il faut qu'on se rende compte qu'on est femme pour agir dans le sens du développement. On n'est pas femme pour rivaliser l'homme. L'homme est là pour conseiller la femme et compléter la femme. Mais maintenant, qu'est-ce qui reste aux femmes maintenant? C'est d'agir. C'est de se former, de se sensibiliser. Je maintiens sur cette base-là. Et la réalité, il n'y a pas de blocage. Le blocage est purement psychologique et social.
Et ce blocage psychologique est créé par qui?
C'est créé par les femmes elles-mêmes. Parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas arriver à ce niveau parce qu'il y a des hommes.
Mais est-ce que ce n'est pas les hommes qui leur ont dit que vous ne pouvez
non,
pas
arriver hommes à ce niveau? Non, les hommes ont compris. Pourquoi on parle du genre? C'est pour vous dire qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Nous sommes tous les mêmes. Et on se complète. Il faut que les femmes aient ça comme instrument de lutte et se positionner. Il y a une loi qui leur permet d'agir, d'avoir leur mot à dire dans un cercle. Il y a l'autonomisation aussi qui est là pour être riche sur les femmes. Et dans la famille, le respect, ça c'est culturel. Et ça, au moins, quand on dit la nuit porte conseil, c'est juste que l'homme demande des conseils à sa femme. Ça veut dire ça, c'est l'importance de la femme d'abord. Ça, c'est à l'intérieur. Et en dehors de tout ça, la femme s'expose aussi en montrant que je suis capable de le faire. Dans l'effort de sécurité aujourd'hui.
S'exposer comment?
S'exposer, ça veut dire que de dire nous aussi, nous sommes capables aujourd'hui de sortir et de se mettre à la place des hommes et agir dans le sens du développement. Pourquoi en faisant être dans l'effort de sécurité? Des femmes acceptent d'être rasées aujourd'hui.
Aminata on parle pas des
besoins.
Avec toi.
Oui, non. On parle des besoins. Aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui avec Simrap des interviews des femmes au niveau des forces de l'ordre, mais c'est pathétique. Elles acceptent d'aller. Moi, j'accepte d'être rasé. J'accepte de ramper avec des hommes pour servir mon pays. Je suis prêt à aller dans les regroupements de maintien d'ordre. Je suis prêt à aller dans les maintiens de paix pour
d'accord,
pour
le mais Guindo, est-ce que cela n'est pas certaines femmes? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes aujourd'hui qui refusent même que leurs femmes qui sont diplômées, qui ont toutes les capacités nécessaires, en tout cas pour faire un travail, de sortir même pour aller travailler?
Oui, ça c'est des sensibilisations. Parce que les gens commencent à comprendre. Parce qu'on se complète avec le genre. Et la réalité, il faut inciter des femmes à le faire. Et des hommes qui sont là aujourd'hui, qui ne sont pas des alliés des femmes, il faut les convaincre à venir. Et nous sommes là aujourd'hui parce qu'il y a l'équilibre. Mais il y a beaucoup d'hommes qui cherchent à comprendre aujourd'hui. Parce que dans le débat, ne vous focalisez pas tout ça sur des femmes. Là, ça fait des frustrés. Mais en réalité, il faut les accompagner. Moi, je pense que le blocage est lié à ça. Et les deux peuvent aller ensemble et on ne peut pas faire la paix ni le développement sans des femmes parce qu'elles sont nombreuses.
Aminata, comment faire de telle sorte que certains hommes ne pensent pas que les femmes veulent rivaliser, que les femmes doivent jouer juste leur rôle? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont mal compris cette action, cette promotion de femme, des femmes.
Et ce qu'il faut retenir, c'est que la femme ne peut pas rivaliser avec l'homme. Dieu nous a créés comme ça, mais la femme ne peut jamais rivaliser avec l'homme. Un exemple typique, quand tu demandes à une femme de porter un sac de 100 kilos de riz, elle sera peut-être incapable de le faire, contrairement à l'homme. Donc, ce n'est pas à ce niveau qu'il faut voir. Toujours, il y a cette manière de, sensibilisation qu'il faudrait prôner un peu au niveau des hommes. Leur faire comprendre que la participation des femmes ne va pas à leur encontre. On ne va pas dire que la femme doit participer, elle doit parler à son nom, que je vais rivaliser avec l'homme. On ne peut jamais rivaliser avec eux. Il y a toujours ce travail qu'on doit faire ensemble. On doit s'aider, on doit s'accompagner, qu'il faut voir plutôt. Donc, c'est peut-être les hommes qui n'ont pas compris cette idée de participation de la femme ou bien de l'implication des femmes dans les prises de décision et tout ça. Donc, tout cela tourne autour d'une communication, on peut dire. La communication est mal comprise.
D'accord. Justement, communication. Comment peut-on comprendre que on dit souvent que la nuit porte conseil, ce qui veut dire que les hommes vont vers les femmes pour les écouter. Les femmes ont une certaine influence sur les idées que les hommes peuvent avoir. Et qu'après, pour sensibiliser les hommes à pouvoir faire sortir, s'exprimer, travailler, que les femmes n'arrivent pas à le faire. Qu'est-ce qui bloque au niveau de la communication, docteur Maïga?
Bon, ça c'est des aspects très importants parce que tout simplement La femme, elle est importante au niveau de la famille. Elle est indispensable. Elle doit veiller sur son mari. Elle doit veiller sur ses enfants. Elle doit veiller sur beaucoup de choses. Donc, quand elle sort, l'homme sent son absence. Donc, il y a un certain blocage, une certaine frustration qui est créée au niveau de l'homme, qui est difficile pour l'homme. Donc, la communication est très importante. Parce que tout simplement, si c'est une femme qui est formée, qui est capable, qui est engagée, elle peut expliquer à son mari. Elle peut sensibiliser. Nous, par exemple, pour aller, lors de la première rébellion, pour aller à Kidal, pour aller à Tombouctou, on est parti prendre contact avec le mari de chaque femme pour lui dire, on demande l'autorisation, on vous demande l'autorisation pour partir avec votre femme. Elles sont inscrites dans l'organisation féminine, mais pour les faire déplacer, on va, il faut que l'homme également se sente, en tout cas considéré, par rapport à ce que sa femme est en train de faire. Donc on va, on négocie, on sensibilise le monsieur, le mari, on lui explique, et il donne son accord pour que sa femme participe aux missions de paix et de sensibilisation et de réconciliation. Ça, c'est un aspect important. Les autres aspects de la communication, c'est-à-dire qu'il faut élaborer des messages avec des éléments de langage très importants qui ciblent les différents acteurs. Il faut communiquer avec les époux des femmes. Il faut communiquer avec les groupes armés avec qui les femmes vont s'entretenir pour apaiser, pour communiquer avec eux, pour les apaiser et leur permettre vraiment de céder. Je vous avoue, on est parti à Kidal. On a rencontré les groupes armés. On a sensibilisé, on a parlé de façon pathétique. Il y a des hommes qui ont jeté leurs armes. Des groupes armés qui ont jeté leurs armes. Mais si on le faisait de façon permanente, on n'a pas les moyens d'aller tous les jours à Kidal ou bien d'aller dans une autre localité. Mais c'est, on a élaboré des messages qui ont été diffusés à la radio. Et les groupes, les porteurs d'armes ont été très sensibles à ça.
D'accord. Alors, Moussa Guindo, comment faire aujourd'hui pour pallier à ce blocage, que ce soit psychologique ou même sensibiliser les hommes qui pensent qu'il y a une rivalité qui est cherchée par les femmes?
Non, c'est très simple, c'est de continuer la sensibilisation et que chacun joue son rôle. Je prends un petit exemple. Quand on prend un couple qui travaille, quand le rentre à la maison le matin et le soir, l'homme il va directement regarder sa télé ou aller jouer à la carte. La dame, elle rentre dans la cuisine pour préparer ou bien entretenir les enfants. Et vers 20h, 22h, chacun cherche à se reposer. Et vous voulez que les deux-là puissent travailler ensemble, se rivaliser. C'est-à-dire que voilà l'écart. C'est-à-dire que l'homme a tout le temps de se préparer. La femme est au service de l'homme. Et c'est là les deux se veulent se compléter. Et la réalité, c'est juste la sensibilisation. Et en prenant des textes aussi pour appuyer des femmes, pour au moins d'être à un niveau où elles peuvent s'exprimer. Et que de se débarrasser de leur statut de femme comme rivalité des hommes et s'imposer à travers des formations, à travers des idées. Et là, ça peut faire avancer la promotion de la femme.
Mais est-ce qu'il ne faut pas changer cette idéologie également qui est que la femme est au service de l'homme?
Oui, non, ça c'est typiquement psychologique et culturel. C'est ça le problème des Maliens. C'est ça. Sinon, au moins, si nous sommes des êtres vivants, on se complète. Aujourd'hui, moi, j'ai besoin de ma femme pour développer mon commerce, pour développer ma famille. Ça, c'est dans la cohésion, c'est dans la communication. C'est dans l'entraide. Et pourquoi ne pas faire sur le plan national? Aujourd'hui, dans les associations, c'est les hommes et les femmes qui se retrouvent. Les femmes sont dans leur, par des partis politiques, et il y a des bureaux des femmes, il y a des associations des femmes juste pour au moins sensibiliser et faire la formation des femmes, des renforcements des capacités. Je pense que dans les jours à venir, quand on arrive à faire le bilan, nous allons nous rendre compte que nous avons des femmes valables, des femmes leaders qui sont prêtes aujourd'hui à s'imposer. Et aujourd'hui, sur le plan textuel, je le dis, c'est très clair, le Mali est beaucoup en avance sur beaucoup de pays. Mais maintenant, c'est aux femmes maintenant de se serrer les coudes, de se retrouver dans les associations, dans les ONG, pour au moins parler de la promotion de la femme et sur quelle base, mais sans penser à la rivalité avec des hommes.
D'accord. Est-ce que cette sensibilisation ne devrait pas commencer à la maison, chez les parents d'abord, qui doivent former les jeunes filles et les jeunes garçons d'abord à comprendre que cette complémentarité est profitable à tous?
Exactement. Mais tout d'abord, il faudrait qu'on laisse cette idéologie que la femme est au service de l'homme. La femme n'est pas l'esclave de l'homme. On est au service l'un de l'autre. Donc déjà, si on a cette mentalité de dire que nous sommes au service de vous, directement, on a cette psychologie que jamais on ne pourra être au même pied d'égalité. On ne veut pas être au même pied d'égalité, mais on veut vraiment qu'on avance ensemble, qu'on s'entraide, qu'on se donne la main, qu'on collabore ensemble. Déjà, une vie de communion, c'est comme ça. Il faut vivre ensemble et collaborer tous les deux. Il ne faut pas dire que l'un est au-dessus de l'autre, l'un est au-dessus de l'autre. Donc, il faudrait forcément que tu restes toujours derrière moi. On peut marcher ensemble et avoir cette même idéologie. Ainsi, nous, les femmes, c'est qu'on veut vraiment...
Mais du moment où c'est culturel, c'est traditionnel, est-ce qu'il ne faudrait pas aller étape par étape, accepter cette compréhension du moment où ça permet aux femmes de sortir faire ce qu'elles veulent et ensuite chercher à changer cette idéologie?
Tout à fait. Cela dépend aussi de l'éducation dans les familles. Parce qu'en famille, déjà, les enfants, quand ils sont en bas âge, on initie la fille à faire la cuisine, on lui donne des poupées pour s'amuser avec, et le petit garçon, on lui achète des voitures, des armes à feu, on lui achète des ballons pour lui dire que c'est ça ton truc. Quand tu seras grand, c'est ça que tu devras faire. Tu ne devras pas être en cuisine. Et la femme, c'est la cuisine que tu devras faire, c'est t'occuper de la famille, balayer et tout ça. Et l'homme n'a pas droit à faire ça. Déjà, si on commence à initier ça, si on commence à cultiver cette culture dans la tête des enfants, devant la femme elle-même, elle va se dire des fois, est-ce que c'est la peine d'étudier? Est-ce que c'est la peine pour moi de prendre la parole devant d'autres hommes? Déjà là, c'est le blocus est déjà là. Donc il faudrait vraiment qu'on cultive cette idéologie que la femme et l'homme peuvent aller ensemble, qu'il n'y a pas de disparité entre les deux.
D'accord, il nous reste 2 minutes, 35 secondes pour chacun. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie?
Bon, on est sur la bonne voie parce que on est sur la bonne voie, on a des difficultés pour avancer. Les femmes sont mobilisées pour les questions de paix et de sécurité. Elles sont mobilisées. Elles ont créé leurs associations. Ce qui manque, c'est la reconnaissance par les autorités de leur rôle et de leur implication dans les mécanismes de prise de décision sur les questions de paix et de sécurité.
D'accord, Moussa Guindo. Peut-on s'attendre à cette reconnaissance ou que cette reconnaissance soit mieux faite par les autorités aujourd'hui?
Non, la reconnaissance, elle est mieux faite déjà avec la création du ministère de la promotion de la femme, de la femme et de la femme.
Si elle est mieux faite, peut-on s'attendre à une amélioration?
Une amélioration parce que le gouvernement travaille dans ce sens. Aujourd'hui, j'ai dit, les femmes, elles sont nombreuses. On est obligé d'aller avec elles. Maintenant, il faut qu'on se débarrasse d'autres aspects culturels, qu'on respecte les maris à la maison. Si c'est le terrain, si sur le terrain de travail, nous sommes les mêmes pour le développement du pays.
D'accord.
Et je pense dans ce sens, l'État a fait beaucoup de choses. C'est aux femmes de se mobiliser, de rester sereines et pour le développement.
Aminata Diallo, quelle est l'urgence aujourd'hui pour vous les femmes?
On veut être entendu, tout d'abord. On veut que nos décisions soient prises en compte parce que il ne suffit pas de parler, mais il suffit aussi d'agir. On veut vraiment que nos décisions soient prises en compte par tout le monde, nos maris d'abord à la maison et aussi par d'autres autorités. Et nous voulons aussi collaborer avec les femmes. Ce n'est pas une question d'égalité. On ne veut pas être égal avec les hommes parce que Dieu nous a créés ainsi et on veut rester ainsi, mais on veut marcher ensemble.
Et que les textes soient mieux appliquer.
Surtout la loi 052.
D'accord. Merci beaucoup. Sécurité et genre au Mali. C'était le thème de ce grand dialogue sécurité et genre au Mali. Quels défis et opportunités de paix. Merci à nos invités. Docteur Mariam Maïga de la Coalition nationale de la société civile pour la paix et la lutte contre la prolifération des armes légères. Aminata Diallo, facilitatrice de la CONACIPAL à Gao et Moussa Guindo, expert en genre. Je suis Mouhamadou Touré. Je rappelle que ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et Cypri et CONACIPAL. À la régie audio et vidéo, il y avait Nouhoum Djiré et Gagné Kanté. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Gmangi.
Chien Nibiri. Sigi Kafoba.